Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Cette semaine, le JPEG se refait une beauté. On parle de burning and dodging, la terminologie Carl Zeiss expliquée, la photo urbaine de nuit, on parle de Magic Lantern et on fait le test du Panasonic GX7. Bienvenue à Objectif numérique, épisode 49.
On s'approche, c'est proche.
Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette.
Oui, et Christian, qui est au bout de son Skype.
Et oui, malheureusement encore.
Isolé sur son île.
Oui.
C'est pas vrai, en plus.
Ben oui. Ben, nous aussi, d'ailleurs, on est sur une île.
Une autre, oui.
Il y a tellement d'îles dans le coin que c'est un archipel. C'est un...
Non. Ouais, non.
Passons aux choses sérieuses. C'est maintenant le temps de voter pour le défi photo numéro 11. Pour ce défi, nous avons un prix de 500 pix, donc un abonnement au plan Awesome.
Awesome!
Et les gens, les généreux gens de 500 pix qui nous offrent encore un abonnement d'un an, d'une valeur de 75$, donc un prix très intéressant. Et les photos seront publiées dans les prochaines heures et vous avez, comme à l'habitude, 2 semaines pour voter. Mais parlant de défis photo, il y a un autre concours qui est lancé, mais pas par nous cette fois-ci.
Non, c'est la compagnie Sigma qui organise un concours pour les propriétaires d'objectifs. Devinez de quelle compagnie?
Sigma?
Sony!
Eh oui! Bravo Stéphane! C'est Sigma! Chaque photo soumise dans ce concours donne une chance de gagner un crédit mensuel de Sigma Canada de 500$. Et c'est là que je dois décevoir nos amis européens. C'est seulement pour le Canada, ce concours-là.
Bon.
Donc, désolé, ça va se passer au Québec et au Canada français. Le prix de 500$, donc je disais, et on va pouvoir mettre la main sur le grand prix d'un voyage pour deux au Japon.
Oh, intéressant.
Bon. Oh, intéressant, Moses.
Super intéressant. Il n'y a pas de thématique annoncée. On envoie tout simplement les photos prises avec les objectifs Sigma. On a jusqu'au 31 mai pour faire nos soumissions. Et puis, évidemment, Sigma se réserve le droit de faire de ce qu'elle veut de vos photos. Donc, vous perdez absolument tous vos droits. Ils peuvent faire, ils les vendre, ils peuvent les diffuser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec.
Ouais, ça, je trouve ça un peu dommage, par contre, dans certains concours photos, parce que ce n'est pas tous les concours photos, justement. Comme nous, les gens qui soumettent nos photos conservent absolument tous leurs droits. Ils nous cèdent seulement le droit d'utilisation aux fins du concours sur notre site et sur Flickr et tout ça. Donc,
c'est pour ça que je vous dis, si vous, chers amis professionnels, qui avez de super belles photos, soyez prêts à en perdre les droits, évidemment. Mm. Si vous pensiez faire quelque chose de précis avec cette photo-là, vous êtes peut-être mieux de la garder si vous pensez que vous pouvez la monnayer, parce que franchement, c'est une participation à un concours. Il va y avoir beaucoup de participation à ce concours-là. Mm-hmm. Quand on voit un voyage pour deux au Japon, oui, c'est quand même un très beau prix. Donc, mais bon, sinon, pour le reste, je trouve que c'est un concours super intéressant. Moi-même, j'en ai déjà envoyé. Fait que,
oui.
On peut participer autant qu'on veut, soit dit en passant.
Bon, peut-être que je participerai aussi. Il n'y a rien qui nous en empêche, contrairement à nos propres défis photos.
Exact.
Ouais, puis il faut quand même pas oublier, par contre, le détail qu'il faut avoir un objectif Sigma.
Ben, on en a un, François et moi.
Eh oui. Il faut mentionner, vous pouvez lire le règlement du concours, il faut juste mentionner avec quel objectif on a réalisé la photo qu'on envoie.
Ouais.
Bon, voilà.
Parfait. Moi, j'ai trouvé un petit bidule. On a parlé il y a quelques épisodes, tout récemment, d'un appareil vraiment style Polaroid. Ben, ça s'appelle le Polaroid Cube. Et c'est carrément un cube, donc environ 3 cm par 3 par 3, toute petite dimension. Cet appareil-là peut capter des images à 120 degrés, donc c'est quand même un angle assez large, un assez grand angle.
Ben, c'est comme la GoPro aussi.
Oui, c'est similaire, hein? Ouais, je pense que c'est pas mal la même chose. Et on parle de photos à 5 mégapixels ou de vidéos 720p. Par contre, ce qui est dommage un peu, ce petit cube-là n'a pas de Wi-Fi intégré. Donc, on doit transférer les photos soit en, en retirant la carte micro SD ou peut-être avec une prise USB quelconque. Là, mais c'est vraiment mignon, puis ça se place n'importe où. Écoute, on laisse ça sur une tablette de bibliothèque ou une étagère quelconque, puis on peut prendre des photos, filmer.
Est-ce qu'il vise quelque chose en particulier que les autres ont pas déjà?
Je crois que c'est carrément un gadget. Ça coûte environ, je pense que c'est 99$.
Ah, c'est pas cher.
Donc, c'est ça. Mais en fait, ça s'appelle le C3. Bon, excusez, j'avais complètement... j'étais passé par-dessus le vrai nom parce que c'est tellement tout petit que... Et donc, C3, on s'en doute, hein, ça doit être pour ça, 3x3x3.
Ouais. C'est original.
Ouais. Alors voilà, c'était juste un petit bidule comme ça que je trouvais mignon, parce que on s'entend que c'est pas de la haute technologie, mais quand même, c'est mignon. Ça peut peut-être servir, qui sait, il y en a qui servent des GoPro à 400$ pour faire des trucs, ben un petit cube à 99$,
ça oui, peut pour servir, certains hein. projets, ouais. Ou juste certaines utilités, oui, effectivement, t'es pas obligé de te payer la GoPro qui va avoir trop de fonctions pour ce que tu as besoin.
Exact. Et maintenant, on a reçu une question d'un auditeur, Olivier. Olivier possède un Nikon D3100 avec l'objectif de base, le 18-55, et il possède aussi un 35mm f1.8. Et il veut changer son appareil pour faire tout d'abord de la vidéo et ensuite de la photo. Et il hésite entre le Sony A7 et le Canon 70D. Je vais vous avouer que j'étais un peu surpris de sa question, de son... ces deux candidats potentiels, ben en fait, pas parce que ce ne sont pas des bons appareils, au contraire, mais pourquoi ils voulaient quitter Nikon. En fait, je ne connais pas vraiment le D3100, mais Christian, toi, je pense que tu as lu un peu plus là-dessus.
On est vraiment, mais vraiment pas dans la même catégorie. Là, on parle d'un appareil entrée de gamme qui n'est pas un mauvais appareil, mais par contre, si c'est pour faire de la vidéo, il est plus ou moins recommandé.
Ah, okay.
Quelques limitations, entre autres, là, l'autofocus en mode live étant pas très, très approprié, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu vite. Là. Mais si c'est pour ça, j'avoue que je peux comprendre. Là, mais ce qui me surprend, c'est peut-être la décision de passer, comme tu dis, de Nikon à Canon. Peut-être que c'est une question de la réputation de Canon par rapport à la vidéo, je sais pas.
Peut-être, ou question d'ergonomie, mais en fait, j'ai pas beaucoup de détails dans le courriel en question. Ben, je sais pas qui veut commencer à y aller de ses suggestions.
Ben, du côté Nikon, si désire garder ses objectifs, du côté Nikon, les appareils Nikon font de l'excellente vidéo, soit dit en passant, sont presque à niveau égal avec Canon. Ou ce que Canon se démarque, c'est qu'ils prennent l'avance à chaque fois. Hein, t'sais. C'est ça un peu la différence. Fait que moi, si j'avais des objectifs Nikon, je songerais à rester en Nikon.
Ouais, ben, il ne semble pas très équipé, par contre. Il y a l'objectif de base, puis il y a un 35 mm.
C'est quand même déjà ça.
Ouais.
Sinon, si on s'en va vers le 70D, comme il se demande, ben, il faut quand même retourner chercher les objectifs de base qu'il a déjà. Fait que si ce n'est pas une question de budget, ça ne fait aucun doute. En tout cas, de mon esprit, que la 70D est mieux équipée pour faire de la vidéo. En fait, c'est dans cet esprit-là qu'ils sont allés la faire évoluer. La vidéo dans le DSLR est devenue vraiment quelque chose d'important pour plusieurs personnes. Ça a transformé le paysage de la vidéo parce qu'on a ajouté des objectifs photographiques à la vidéo, ce qui donne des profondeurs de champ super belles. En télé, on n'était pas habitué à voir ça, sauf si on travaille avec des caméras professionnelles en 35-16 mm.
Puis le Canon 70D a plusieurs avantages du fait que son écran à l'arrière est tactile. Il y a le step motor, donc la mise au point vraiment fluide quand on change de point de focus.
Oui, puis ça, c'est vraiment pas à dénigrer à passer par-dessus parce qu'en vidéo, DSLR, il faut, si on n'a pas une espèce de formation à faire le foyer manuellement, faut même pas imaginer qu'on va être capable de suivre un objet manuellement. Donc, si c'est pas nous, c'est le moteur, c'est l'appareil qui doit le faire. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun appareil, aucun objectif qui était désigné pour suivre une image en temps réel. C'était pour faire de la photo, des mises au point hyper rapides, mais avec une, comment je pourrais dire, peut-être un tiers de seconde où le moteur cherche un peu sa mise au point. Alors qu'en vidéo, quand tu cherches ton foyer, tu fais des allers-retours jusqu'à temps que tu trouves le point, pour qu'il soit parfait, c'est vraiment pas joli
c'est
à regarder.
Pas beau, non, c'est ça.
Alors, ils ont développé cette technologie STM, Step Motor, qui vraiment a des super résultats. En fait, c'est que ça se fait juste plus rapidement. L'œil remarque un peu moins qu'il s'acherche.
Puis le focus se fait mieux avec la fameuse technologie de double pixel, là, le dual
c'est
pixel.
Ça. Ouais.
Donc, tout ça combiné ensemble, là, moi, en tout cas, pour l'avoir eu entre les mains à l'automne dernier, j'ai trouvé le 70D, ça serait aussi ma suggestion. Peut-être à l'étonnement de certains, parce que je viens de me procurer un Sony A7. Mais moi, je fais pas beaucoup de vidéos. Donc, je tourne des vidéos de mes enfants, des trucs comme ça. Mais moi, c'est vraiment pour la photo. Donc,
Oui, puis tu sais, aussi, la 70D a une prise microphone aussi externe. Tu sais, des trucs comme ça qui sont plus...
L'A7 aussi.
Oui?
Oui. Casque d'écoute et micro, il y a les deux prises. Ça, je trouvais ça intéressant quand même de l'avoir
oui, c'est
au
bon.
Cas où je me mette à faire un peu plus de vidéos.
Ça, oui.
Mais,
un petit reportage dans un événement, puis tu as besoin de vidéos, parce que ton client veut avoir une entrevue avec tel président. Ça va être hyper pratique d'avoir un micro externe qui va donner une qualité vraiment, surtout dans une foule où il y a beaucoup de gens.
Oui.
Tu veux augmenter la qualité sonore de tes clips vidéo, ça va être pratique, oui.
Absolument. Mais c'est ça, ce qui nous a pas trop aidé pour répondre à la question d'Olivier, c'est qu'on sait pas nécessairement dans quelles circonstances il veut faire de la vidéo ou de la photo. Donc, c'est un peu difficile de le conseiller. Par contre, en tout cas, moi, je considère que pour le prix, il va en avoir peut-être plus côté vidéo avec le Canon 70D que le Sony A7. Mais
si,
c'est pas un mauvais
si
choix non
mettre,
plus.
Si je peux mettre un petit... lancer un pavé dans la mare, comme mm-hmm. on dit... je vérifiais, puis il y a quand même quelque chose qui pourrait être une autre option qui est intéressante, qui serait le Nikon 5300.
Ah oui, le tout nouveau.
Oui, ben on parle d'un mode de vidéo de 1080p à 60 images par seconde,
okay.
qui est quand même assez respectable.
Oui, oui.
On a le Wi-Fi, on a le GPS dessus, 39 mm-hmm. points d'autofocus, 24 mégapixels. Fait que c'est quand même un appareil qui est assez bon. Il parlait même que la qualité autant visuelle que ISO, etc., est très similaire à la 7100,
okay.
qui est beaucoup plus chère. Fait que ça pourrait aussi être une autre possibilité là, s'il veut garder son objectif ou ses objectifs. Mm-hmm. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que il semble-t-il que le mode en kit avec l'objectif et l'appareil est un peu cher, mais si on achète juste
le boîtier seul, ouais.
le boîtier seulement, ça commence à être un beaucoup plus intéressant. Fait que pour okay. lui, c'est justement, ça pourrait être une alternative intéressante.
Oui.
S'il est habitué à faire la mise au point manuellement, oui. Sinon, à moins que Nikon ait une technologie comme le STM.
C'est vrai, il y a ça.
Moi, tant qu'ils l'ont pas, je ne conseillerais pas Nikon pour, disons, une utilisation maison. T'sais.
En effet, parce que moi, avec le 60D, là, si j'essaie de filmer avec l'objectif Sigma, qui peut ouvrir à 2.8, c'est merveilleux, mais filmer à 2.8 ou
non,
même
non,
à 4,
non,
là,
ça,
on oublie ça.
Ça,
là,
prend une expérience, ça prend une expérience professionnelle ou des outils, c'est-à-dire... on appelle ça un focus puller dans le milieu. C'est une assistance au focus. C'est carrément une espèce de roulette qu'on attache sur l'objectif.
Ah oui, hein. Pour savoir où arrêter.
Savoir où arrêter, faire ses points. C'est une façon cinéma de tourner. Mm-hmm. Une petite loupe aussi qu'on va coller sur l'écran pour mieux voir,
oui.
Pour grossir l'image, pour qu'on puisse mieux faire sa mise au point. C'est des objets qu'on sert, nous, en télévision, mm-hmm. quand on tourne avec ces appareils-là, parce qu'on tourne beaucoup avec les DSLR, quand même.
Mm-hmm.
De moins en moins, mais il y a eu une période, justement, c'était en 2007, je pense, que Canon est arrivé avec la 5D, qui était capable de faire du HD, déjà, en 2007.
La première 5D,
oui,
je pense.
Donc, c'est à partir de là, il s'est créé un marché là, d'accessoires incroyables. Mm-hmm. Mais ça prenait ça, sinon, on ne pouvait pas arriver à faire du beau travail. C'était devenu indispensable.
Oui, oui. Parfait. Ben, en tout cas, on espère avoir au moins donné une piste à Olivier pour en ce qui concerne son changement d'appareil. Rester peut-être dans Nikon, mais pour faire de la vidéo avec focus automatique, peut-être plus le 70D. Sony A7, ben, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'on a un plein capteur pour la photo.
Oui.
Et pour la vidéo, ça ne nuit pas aussi. C'est plus lumineux un peu. Là.
Absolument.
Et ça donne une meilleure profondeur de champ, mais reste à voir là, vraiment qu'est-ce qu'il veut faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais tout à l'heure avec François, justement, j'ai installé une application carrément dans le Sony A7 qui permet de faire des time-lapse, donc la photographie d'accéléré dont on a déjà parlé. Et tout est configurable. On peut demander combien de photos, la durée du time-lapse, à quel intervalle, combien de secondes entre chaque photo, etc. Et c'est merveilleux. C'est de pouvoir installer des applications pour ajouter des fonctionnalités à son appareil.
Ouais.
Donc, si jamais,
c'est
en plus de filmer,
smart il veut faire... caméra.
Oui, c'est ça. Et si en plus de filmer, il veut faire des time-lapse, des trucs comme ça, ben peut-être que ça peut faire pencher la balance, mais c'est sûr et certain que Olivier ne se trompera pas, je pense, avec le Canon 70D. S'il est prêt à revendre son matériel pour pas faire trop de pertes avec ses objectifs.
On s'entend que c'est le choix, dans ce qu'il nous propose, c'est le choix qu'on aurait, qu'on ferait.
C'est ça.
Des trois.
Ensuite, on va passer à un petit sujet un peu, pas technique, parce que je vais pas tomber dans la technique, mais on va parler de brevets. Des brevets d'invention que la plupart des fabricants ont déposés. Donc, on a des brevets de Canon, Olympus, Ricoh, Panasonic et Sigma. Et il y en a des très intéressants. Je ne vous les passerai pas tous, mais j'enverrai un lien dans les notes là, pour que vous puissiez aller les voir. Mais on remarque que Canon a déposé un brevet pour un appareil photo avec un miroir transparent. Donc, un peu à la façon des Sony Alpha. Donc, le A99 ou comme le Sony A7, ils appellent ça le Translucent Mirror, un miroir transparent. En fait, il n'y a pas vraiment de miroir. Il n'y a pas de miroir physique. Donc, ça sera à voir comment c'est fait. Il y a Sigma qui a déposé un brevet pour un objectif 300 mm f2.8. Donc, c'est ouvert, ça.
Ça, pour le domaine du spectacle, tout ce qui est shooting intérieur, ça va donner vraiment un plus. L'extérieur, on peut s'en sauver, mais...
Mm-hmm. Mm. Du côté de Panasonic, aussi, encore beaucoup de brevets pour des objectifs. On a un 65 mm 1.8, un 25 mm f1.4, un 100 mm à f2, 35 mm f1.8, 43 mm à f1.4.
Ça, c'est dans le micro 4 tiers, j'imagine?
Oui, c'est tout du micro 4 tiers.
Ouais.
Donc,
Panasonic, c'est leur jeu, de jeu.
Oui. D'ailleurs, c'est ça, un peu plus tard dans l'épisode, je vais parler du GX7, un petit appareil.
Pourrait bénéficier de ces objectifs dans le futur.
Oui, absolument.
Si on comprend bien.
Ouais. Exactement. Et puis, il y avait du côté d'Olympus... Olympus qui avait, ça ressemble un petit peu au Sigma de tout à l'heure, mais moins ouvert un peu. Il y a un 250 mm à f5 pour micro 4 tiers aussi. Mais justement, ça c'est un des avantages. Il y a beaucoup d'objectifs, justement, Olympus, Panasonic, on peut interchanger ça. Ils sont compatibles entre eux, donc c'est un gros avantage pour ceux qui ont un appareil de cette marque-là, de ce type-là. Donc... des choses à surveiller parce qu'il va y avoir justement toute cette gamme d'objectifs et ces trucs-là qui vont sortir sur le marché éventuellement. Maintenant, je voulais vous parler du JPEG, messieurs. Une grosse nouveauté, deux nouveautés du côté du JPEG. Le JPEG ajoute 4 bits à son
format, 8 bits.
Si on veut, à son 8 bits. Et maintenant, fait de la compression sans perte. Donc,
À ta minute, ta phrase fait pas de sens.
Justement, je vais vous expliquer. C'est
il
que
va nous éclairer.
C'est ça. Le JPEG existe depuis à peu près 1992. OK. Et il est limité à une taille d'image de 65 535 par 65 535 pixels. Ce qui est quand même pas mal.
On l'a pas encore dépassé.
Non, c'est ça. En 24 mégapixels, là, c'est du 6000 par 4000. On est loin de dépasser ça. Donc, par contre, il encode les couleurs seulement sur 8 bits.
Ouais.
Alors là, il y a eu des alternatives qui ont été proposées avec le temps, comme le fameux JPEG 2000, dont personne ne se sert nécessairement. Ou en tout cas, moi, quand j'en... C'est ça. Mais le JPEG a continué d'évoluer avec le temps. Et puis, ça va s'appeler le JPEG 9. C'est la 9e version. Mm-hmm. Et on va avoir la possibilité d'utiliser une méthode de compression sans perte. Donc, ça va compresser, mais l'algorithme va être plus performant. Donc, parce que normalement, quand on compresse, évidemment, on enlève des doublons ou on laisse tomber des trucs qu'on... En tout cas, selon l'algorithme actuel, qu'on pense que l'œil ne va pas nécessairement percevoir ou que ça va faire une perte à... à coût moindre. À moindre si
échelle.
À moindre échelle.
Ouais.
Donc là, ben, l'algorithme est amélioré, donc on ne remarquera plus vraiment de compression. Et les couleurs vont pouvoir être encodées sur 12 bits plutôt que 8. Donc, un meilleur rendu des couleurs à ce niveau-là.
Donc, en fait, c'est un, comment je pourrais dire, un trade-off. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est une façon de...
Un sacrifice.
Je suis sûr que le fichier va être plus lourd.
Probablement.
Étant donné que les cartes mémoire, les disques durs aujourd'hui ont plus de place, ben pourquoi pas donner plus de qualité en grossissant le fichier?
Pourquoi pas? Parce que depuis 20 ans, les ordinateurs sont aussi plus puissants. Les supports de stockage sont beaucoup plus gros qu'ils étaient. Donc, pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être dire on n'adoptera pas nécessairement le nouveau JPEG 9 parce qu'on a des trucs d'archivage comme Facebook, peut-être. Là, ça ne serait pas avantageux d'augmenter de 50% la taille de toutes les images qui sont stockées sur leur serveur. Mais pour quelqu'un...
C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à travailler avec les fichiers RAW ou NEF là, chez Nikon, parce que non seulement ça prend énormément de place, c'est qu'ils n'ont pas besoin de retravailler des photos. Ça prend beaucoup de place. Puis, c'est ça. J'avais un autre point que j'ai oublié.
C'est pas grave. Mais donc, toutes ces améliorations-là sont déjà intégrées dans la bibliothèque open source libjpeg, libjpeg. Et donc, il reste juste à voir quels seront les premiers appareils photo à en tirer parti.
Oui, parce que là, les manufacturiers doivent entrer dans le jeu. Ils doivent se dire, OK, on est prêt à changer le standard de notre côté aussi. Il faut que ça se fasse partout, j'imagine. Oui.
Ou à la limite, peut-être qu'il y en a qui vont l'introduire en option. Est-ce que, justement, RAW, JPEG ou JPEG 9 ou un peu des deux, un peu des trois?
Oui.
On verra bien.
C'est une bonne nouvelle, je trouve. L'évolution, c'est toujours bien.
Tant qu'on gagne, c'est toujours ça l'important.
Oui.
Parfait. Là, François, toi, tu avais un petit sujet un peu déprimant ou un peu rigolo. Non, tu vas voir. C'est...
ça m'est arrivé une couple de fois, parce que ça touche pas seulement... En fait, c'est les cinq phrases qui dépriment les photographes.
Okay.
Des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça vise surtout les photographes de profession, je dirais, mais je pense que chaque personne qui est photographe plus ou moins sérieux va s'y reconnaître. Donc, je commence avec la première phrase. Les photos de mes enfants sont magnifiques. Votre appareil prend de belles photos quand même. Réponse. Merci, votre utérus a fait de superbes enfants.
c'est ça.
Une autre chose qu'on peut entendre, combien vous demandez pour un mariage? Ah oui, OK, mais je comprends, c'est normal. Je vais demander à mon beau-frère de prendre des photos, ça va être moins cher parce qu'il vient de s'acheter un réflexe. Merci beaucoup en tout cas.
Oui, c'est ça.
Ben, moi, je répondrais toutes mes condoléances.
Ouais.
Lui, il dit, mais c'est un mariage, c'est pas un enterrement. Non, c'est pour tes photos.
Non, c'est clair parce que c'est pas parce que justement le beau-frère ou le cousin s'est acheté un appareil réflexe qu'il va savoir quelle photo prendre, à quel moment, comment cadrer.
C'est vraiment une espèce de, comment je pourrais dire, de conception erronée tout de suite qu'on va se faire. Par exemple, tu décides de t'acheter un nouvel équipement de ski. Tu vas au marchand de ski, tu t'achètes la paire de ski à 900$. T'sais. Tu te dis, hey, je vais être bien plus rapide avec ça. Non, si tu n'as pas pris le cours, si tu n'as pas pris la technique, si tu es un débutant puis tu tombes tout avec l'équipement expert, bonne chance.
Si tu n'as pas fait 100-150 descentes minimum, tu n'as aucune idée.
Mais bon, tu vas être beau, tu vas avoir du stock neuf.
Puis au moins, l'avantage, c'est qu'avec un appareil photo, même si tu payes cher, si tu tombes, tu te fais pas mal, contrairement au ski. Mais ça, c'est une autre histoire. Je parle par expérience.
Autre chose qu'on peut entendre puis qui est assez comique. J'aimerais ça m'acheter un réflexe. Peut-être que vous pouvez me conseiller. Par exemple, là, votre kit, votre matériel, il coûte combien? Mon kit, il coûte 5 000$ de base, puis disons qu'il y aurait autour de 6 ou 7 000$ d'objectif. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pour ça que vous faites des belles photos.
On fait des belles photos parce qu'on a des bons appareils, sure.
C'est ça.
Un menuisier fait des beaux meubles parce qu'il y a un bon marteau puis un bon.
C'est la même logique.
Des bons outils.
C'était comme ça qu'ils ont fait les pyramides aussi, hein? Je pense que c'est à
oui,
cause de ça. Hein?
Ben oui,
ouais, ouais, là, c'est toute la même logique. Après un contrat de mariage, par exemple, une session de photo ou une session de photo, vous pourriez me donner tous les fichiers RAW sur un DVD, s'il vous plaît? T'sais, on se demandait ça, ben, comme si c'était pas un problème. Ben, on pourrait répondre, par exemple, ben oui, bien sûr. Vous pourriez me donner un DVD de 48 gigs, s'il vous plaît? C'est juste ça. Pour un fichier RAW, mesdames, messieurs, ceux qui ne savent pas encore, c'est extrêmement lourd. Demandez pas une session de photo en RAW. C'est le travail du photographe de les retoucher puis de vous donner des meilleures photos.
Et de faire le tri, c'est ça, de sortir les meilleures, pas de vous donner les 800 photos.
De faire le premier tri, en tout cas.
Ouais. Ben, j'ai déjà fait, regarde, j'en ai fait un contrat photo, mais c'était arrangé parce que celle qui aurait été la photographe était la fille d'honneur, ne pouvant pas faire ça. Puis c'est comme une amie, elle m'a dit, ben garde, m'a faire un deal avec toi. Elle a dit, je vais te demander moins cher, mais c'est elle qui va faire la post-production. Parfait, pas de problème avec ça. Moi, ça faisait bien mon affaire ben dans ce cas-là. Fait que oui, j'ai eu un peu moins d'argent, mais j'ai pas eu de post-production à faire.
Oui, qui est quand même non négligeable.
Ça peut être long, la post-production.
Considérant qu'il y avait 1500 photos, je te dirais que oui, c'était non négligeable. Ben, hein.
Ah, fait que tu t'es payé la traite finalement de 1500 photos, c'est pas moi qui ai attrié ça.
Ça ressemble à ça. Ben, c'est sûr que je suis passé un petit peu au travers pareil parce que je voulais en garder pour moi, tu sais, une dizaine de photos quand même que moi j'aimais.
Ouais.
Mais tu sais, quand tu disais pas de DVD, là, c'était 34 gigs si ma mémoire est bonne.
Écoute.
Ouais, c'est ça, disons à 20,2 mégapixels, 1500 photos, c'est ça, c'est 30,3 gigs.
Ouais.
Donc,
ouais. Il doit bien avoir des clés USB.
Ah,
hein, que...
oh, ça sent bien.
J'ai gardé la plus drôle en dernier pour vous autres, les gars, parce qu'elle me fait vraiment rire. C'est quelqu'un qui te demande, c'est combien de mégapixels ton appareil photo?
Déjà
12. Ça. Ah, ouais, c'est juste 12. Moi, mon smartphone, il y en a 13. C'est pas juste les pixels qui est important. Non. C'est pas juste les pixels. C'est quelque chose qui est implanté encore aujourd'hui.
Malheureusement.
Il y a eu la course aux mégapixels, puis on dirait que les gens sont restés stickés là-dessus. C'est pas les mégapixels qui est important. C'est non. pas ça.
La preuve, c'est que HTC a sorti le One qui a 4 mégapixels sur son capteur. Puis ça fait des belles photos en faible luminosité parce que les photosites sont plus gros.
Ouais.
Moins de pixels sur le capteur, donc les pixels sont plus gros.
Mm.
C'est tout simplement mathématique, c'est physique. C'est, on peut pas.
C'est pas aussi simple que les mégapixels.
Non. Mais...
Si c'était le cas, ça serait plus facile à expliquer aux gens aussi. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Hey Christian, tu savais pas que tu faisais de l'autotune?
Ton son est bizarre.
Ah oui.
Ah là, c'est mieux.
Ouais. Mais on voudrait remercier Skype en passant.
Oui.
Oui. Qui nous ont gracieusement proposé de faire ça par Skype.
Ben, on va profiter du fait que ton son est revenu, s'est amélioré pour que tu puisses faire ton petit topo. Tu vas parler de « burning and dodging ». En français, ça donne quoi?
Brûler et se pencher ou éviter, c'est ça?
Non. Ça serait plus éviter, oui, mais non, c'est pas exactement. Non, c'est plutôt éclaircir et assombrir. Mm-hmm. En fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus approximatif. C'est ce que me dit Aperture dans comme définition. Donc, on va y aller avec ça. Dans le fond, ce que c'est oui, on peut, avec une photo, on peut décider de changer la luminosité, de changer l'exposition, mais il va arriver à l'occasion où il y a simplement une petite zone qu'on a besoin de changer. C'est à ce moment-là que le dodge and burn va nous servir.
Mm-hmm.
Je vais vous donner un exemple. On peut avoir, mettons, une photo où ce que tout est bien éclairé, tout est correct, mais le visage d'une personne n'est pas tout à fait assez clair. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser le dodge en prenant un outil. Ben, je sais que moi, dans Aperture, c'est celui que j'utilise le plus, fait que je vais me référer à ça. C'est comme un petit pinceau. Fait que c'est vraiment, on va peindre par-dessus le visage et il va devenir beaucoup plus clair ce faisant. Et on peut évidemment l'ajuster. Là, t'sais, il y a certains degrés qu'on peut l'éclaircir. Mais ça va nous permettre de prendre juste une partie de cette photo-là pour la ressortir. Ça peut, moi, je l'ai utilisé aussi beaucoup l'inverse, qui est le burn, assombrir. Mm-hmm. Pour exemple, on prend une très, très belle photo. J'en avais une cet après-midi là, que je passais. Puis le problème étant que dans l'arrière-plan, il y avait une couleur qui était un petit peu trop vive, qui attirait un peu trop l'œil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le burn pour la faire disparaître en partie.
Mm-hmm.
Fait que, comme le fond était presque tout noir, il y avait juste une chose qui était à l'arrière qui ressortait un peu. J'ai utilisé le burn, je l'ai fait beaucoup atténuer, et voilà. ça a réglé mon problème. Là, l'œil n'était plus attiré du tout par cette lumière, par cette forme-là.
As-tu un exemple, excuse-moi Christian, as-tu un exemple de avant-après?
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est-à-dire la photo originale et la photo retouchée?
Ouais, qu'on pourrait
oui,
peut-être mettre dans les notes.
On va mettre ça sur, dans les notes qu'on puisse voir exactement.
Ouais, fait que c'est ça. Puis c'est une technique que j'avais appris dans mes cours de photo. C'est ma prof, elle nous en avait montré quelques-unes qu'elle avait utilisées comme ça. Puis ça lui permettait, entre autres, c'était, je me rappelle, c'était comme un pont en bois. Puis le pont le bois était très très pâle, mais il était trop pâle justement à cause de ça. Elle perdait beaucoup de détails. Fait qu'elle, elle avait utilisé le burn pour tout le faire sur le pont. Évidemment, si vous avez une tablette de dessin, ça va encore mieux parce que bon, disons que c'est pas toujours évident de faire ça là. Mais ça peut être une technique très utile pour, comme je vous dis là, ressortir un petit bout d'une photo ou en atténuer un. Plutôt que d'atténuer la photo au complet, là, parce que là, c'est là que ça peut devenir un cauchemar à l'occasion, là, quand on essaie de faire ça.
Mais moi, j'ai utilisé cette technique-là sans le savoir. En fait, sans connaître le terme, Dodge and Burn, j'avais aucune idée que c'était quoi, mais avec Lightroom, moi, c'est mon outil de prédilection. Je me sers beaucoup des outils qui permettent non seulement de faire ça, mais il y a d'autres outils, comme par exemple le grade, l'équivalent d'un filtre qui va donner une gradation dans le ciel, par exemple, si on met un filtre devant l'objectif. On peut le faire aussi en post-production. Ça va servir, dans le fond, à baisser une luminosité trop haute ou l'augmenter. On peut décider de jouer sur l'exposition dans la zone qu'on a sélectionné de travailler. Tu sais. Mais en fait, tout ça pour dire que je ne connaissais pas le terme, puis j'ai utilisé ça juste en m'amusant avec les outils dans Lightroom. Puis c'est vraiment, là, une fois qu'on commence à maîtriser la technique, wow! Ça, on peut vraiment rehausser la qualité de ces photos-là. Puis c'est, même si on a une photo qui était déjà belle, on peut redonner un petit punch de plus. Faut juste pas aller trop dans le...
Ben, c'est comme dans on dit toujours, on revient, c'est l'abus de n'importe Exactement. Quoi, c'est jamais bon.
Ouais.
Exactement. Mais c'est vraiment quelque chose à découvrir. Si vous savez pas comment le faire, vous avez le logiciel pour le faire, allez-y, vous allez vraiment donner... un plus à vos photos, ça fait aucun doute. Fin.
Parfait. Bon, merci Christian. Moi, je voulais éclaircir quelque chose parce que depuis que j'ai acheté mon Sony A7, je commence à... Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup d'objectifs de disponibles encore pour les A7 et A7R. Et la plupart de ceux qui sont disponibles, ce sont des objectifs Carl Zeiss. Et je vois souvent les sonars et toutes sortes d'appellations. Et je me demandais justement qu'est-ce que ça voulait dire, tous ces noms-là qu'ils donnaient aux objectifs. Est-ce que c'est pour la forme? Ou est-ce qu'il y a vraiment une raison derrière? Et effectivement, il y a une raison derrière. Et j'ai fait des petites recherches pour trouver ce que ça signifie. Alors, on a des noms d'objectifs. Il y en a qu'on voit plus souvent que d'autres, évidemment. Mais on a... Biogon, ou Biogon, Distagon, Mirotar, Planar, Sonar, Superachromate, Tessar, Variosonar et Variotessar. En fait, tous ces noms-là font référence à leur conception optique. Donc, on a Sonar pour soleil qui désigne des objectifs lumineux à f1.5 ou plus grand. Alors que Tessar, qui veut dire 4, désigne une conception à 4 éléments de verre pour plus de netteté.
Okay.
Vario, vous l'aurez compris, signifie à focale variable, ou plus communément un zoom.
Ouais.
Donc, c'est quelques exemples.
Ça,
là,
c'est peu importe la compagnie qui fabrique. C'est des termes.
Non,
c'est
Carl Zeiss.
C'est Carl Zeiss.
C'est eux qui aident à savoir justement. Quand tu regardes un objectif puis tu vois que c'est un sonore, oui. Variotessar, machin, ben là tu sais qu'il fait tel truc. Puis ça aide à savoir vraiment dans quelle catégorie l'objectif se trouve, mais pour Carl Zeiss. Mais ça m'intriguait depuis quelque temps parce que je voyais ça. Puis là, je me disais, voyons, ils ont des noms quand même longs, tu sais, ces objectifs-là. Puis je me disais, il doit y avoir une raison derrière. Et voilà. J'ai élucidé le mystère, donc je vous mettrai la liste complète dans les notes d'épisode. François, toi, tu voulais nous parler de ton côté de Magic Lantern. Oui, ça fait plusieurs fois qu'on fait allusion à Magic Lantern.
Magic Lantern, oui, on retourne du côté vidéo avec ça. C'est un micro-logiciel qu'on peut implanter dans son appareil Canon, pour remplacer le micro-logiciel d'origine. Pourquoi qu'on ferait ça? Parce que on peut, grâce au travail de certains petits hackers qui sont vraiment intéressés à rendre la vidéo encore plus intéressante sur les appareils Canon, c'est d'aller filmer en RAW. Ce que ce que Canon ne permet pas de faire à l'origine. Pourquoi? Parce que ça prend un débit, ça prend un microprocesseur qui travaille ultra rapidement et probablement des lignes de code qui ont décidé de ne pas s'embarquer là-dedans. Les gars qui travaillent sur Magic Lantern sont,
dédiés.
C'est des cracks. Mais il faut tout de suite que je mentionne, c'est pas un micro-logiciel ultra stable. C'est pour ça sûrement que Canon s'est pas lancé là-dedans, parce que ça va prendre des mois et des mois avant d'arriver à un résultat super efficace. C'est encore le cas. Ils sont pas encore arrivés à donner un micro-logiciel ultra stable. Donc, c'est à vos risques et périls si vous décidez d'installer ce micro-logiciel-là sur votre appareil.
Ben, ou si vous avez un appareil photo que vous pensez remplacer, mais que vous aimez encore utiliser, ça pourrait être une occasion de mise à niveau du micro-logiciel.
C'est sûr, mais pas besoin de vous dire que ça va briser votre garantie avec Canon, parce que là, vous jouez carrément dans le cœur de l'appareil. Par contre, les bénéfices que vous pouvez en retirer, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour tout filmmaker, pour tout réalisateur en herbe que vous êtes, vous allez être capable d'aller chercher des images incroyables. Juste le fait de filmer en RAW, c'est la même chose qu'en photo. Quand on va arriver en post-production, on va pouvoir étalonner ses couleurs, son exposition sur une plage incroyable et aller chercher un look qu'une caméra beaucoup plus chère peut vous amener.
Okay.
Ça vaut vraiment la peine si on est dans le film indépendant, si on est dans, on veut participer à un concours, un documentaire, on veut se donner un look sans avoir à se débourser.
Pour acheter une caméra RED, là, genre.
Eh boy, oui, je comprends. Mais tu vois, on n'arrive pas tellement loin d'un résultat d'une RED. Bon, ceux qui connaissent bien la RED vont partir à rire. Mais
pour
monsieur, madame, tout le monde qui regarde un documentaire à la télé ou en salle, avec l'œil qui n'est pas expert, l'important, c'est l'histoire. C'est pas nécessairement la technique, c'est l'histoire. Qu'est-ce que le film raconte? C'est vraiment une belle façon d'aller chercher toutes les possibilités techniques que les caméras plus professionnelles peuvent offrir sur la caméra Canon. C'est pas juste le look, c'est pas juste le fait que ça va être en RAW. C'est qu'il y a un paquet d'outils aussi qui vont nous aider à shooter pour que ça soit plus efficace. On parlait de focus un peu plus tôt. Dans ce micro-logiciel-là, on peut arriver à... Il y a une espèce, comment je pourrais dire? Il y a une couleur qui apparaît quand on est au foyer sur l'image.
Ouais, qui fait ce qu'on appelle du... focus peaking. Là,
exactement.
Parce qu'il y a ça sur les Sony NEX, Sony A7.
Ça provient du milieu professionnel.
Okay.
Puis c'est implanté dans les appareils photo qui font des vidéos, parce que tout le monde se rend bien compte que c'est difficile de faire de la mise au point en mode manuel. Bien, avec le focus peaking, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que la zone devient au foyer, il y a une ligne rouge qui apparaît. On sait qu'on est au foyer à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une des 10 000 fonctions que le micro-logiciel permet
de
faire.
C'est génial, ça.
Il y a aussi une fonction zebra. Pour ceux qui connaissent le zebra en vidéo, bon,
je viens de le découvrir, l'asset, là.
Bon, mais ça, c'est pour être sûr d'avoir une bonne exposition. Le zebra, en général, on l'utilise à 70 unités IRE sur 100. 70 unités IRE sur 100, ce que ça donne, c'est la couleur de la peau. C'est la tonalité d'une peau. De couleur caucasienne, c'est ça. Si on shoot d'autres personnes avec des teints bronzés, plus foncés, ben là, on peut changer la valeur du zébra pour aller chercher l'asphalte, le ciel. On va le faire zébrer autour de 100 degrés IRE. Ça va être les blancs purs. Bon, ça, c'est juste un exemple pour vous dire que il y a des outils professionnels qui apparaissent dans ce firmware-là. C'est vraiment intéressant.
Mais c'est déroutant au début, justement, d'utiliser le zebra, ces trucs-là, parce que je l'avais activé par erreur. Je ne savais pas c'était quoi, puis j'ai dit « je vais essayer la fonction ». Et il y a des lignes partout dans l'écran.
Oui, ça cache un peu, mais l'idée, c'est qu'on le retire aussitôt qu'on a fait notre ajustement.
Ouais.
C'est vraiment en début de séquence qu'on fait ça. On sait qu'on a la bonne ouverture. Parfait, on peut commencer à filmer.
Okay.
C'est les appareils qui sont compatibles avec Magic Lantern, c'est pas tous les appareils Canon, évidemment, c'est surtout les réflexes. Je vous les nomme rapidement. Il y a la 5D Mark II, la 50D, la 60D, la 7D, la T2i ou la 550D.
Ouais, en Europe, c'est les par numéro comme
exactement.
Ça.
Exactement. La T3i ou la 600D en Europe, la T4i ou la 650D en Europe, la T5i ou la 700D en Europe. Il y a la 6D puis la même la EOS-M. Okay. Qui est compatible aussi, qui a son propre parc d'objectifs à elle, malheureusement, qui n'est pas vraiment ouverte aux autres objectifs, à part peut-être s'il y a d'autres adaptateurs qui se...
Peut-être, oui.
Ah, OK, bon. Ben, donc, il y a cette gamme d'appareils-là, puis ils ne sont pas tous compatibles à 100% avec le Magic Lantern, c'est-à-dire en termes de résolution, entre autres.
Mais là, tu n'as pas nommé le 70D?
Le 70D, non, il n'est pas encore trop récent.
Ouais.
Peut-être pas assez de gens qui osent travailler dans leur ouais, 70D parce que il faut le dire, hein, ces gars-là, ils travaillent là, sur des versions ouais, ça alpha.
Peut, c'est ça, ça peut carrément briser l'appareil.
Tout à fait. On peut carrément le perdre, là, ouais, mais quand la 70D, c'est pas donné comme appareil. Là. Fait que, il faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour ceux qui développent ça, mais il y en a qui travaillent dessus quand même. Là. J'imagine que dans les prochains mois, ça va faire partie de la liste, la 70D. C'est vraiment quelque chose à tester si vous n'avez pas peur de... D'ailleurs, si vous allez sur le site, je vous suggère d'aller sur le site Cinéma 5D ou sur le site de Magic Lantern, évidemment, où il y a un paquet de tutoriels sur comment l'installer, qu'est-ce que ça donne, ce que ça fait, et voilà. C'est un logiciel très intéressant pour les petits réalisateurs.
Parfait. Et on va revenir à Christian qui a d'autres conseils pour vous, chers auditeurs. On va parler de photos urbaines la nuit.
Oui, bon, c'est ça. Ben, suite à notre autre balado à propos de l'exploration urbaine, je me suis dit que moi, celle que j'ai faite, les quelques fois que je l'ai faite, c'est plus le soir et la nuit parce que, bon, avec les enfants et tout ça, c'est plus simple de partir quand c'est la nuit.
Mm-hmm.
Puis je me suis dit, ben, il y a quand même quelques affaires qui sont importantes à savoir quand on décide de faire ça parce que, bon, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Je me suis dit, je vais vous donner quelques petits trucs. Une des premières choses qu'il faut mettre... quand on fait de la photographie urbaine de nuit, c'est mettre la priorité à la vitesse d'obturation. C'est, dans le fond, si on veut arrêter une image, exemple, si quelqu'un se promène sur la rue ou tout ça, ben, c'est sûr et certain que si vous voulez que vraiment arrêter votre sujet, il va falloir que vous le fassiez au moins à 1/250e. Parce mm-hmm. qu'en bas de ça, il risque d'avoir des bougies, il risque d'avoir un petit peu de flou, etc. Fait que pensez à ça. Fait que par conséquent, ben vous allez être obligé d'avoir un objectif avec une très grande ouverture
oui.
ou ben non, un appareil qui a une très, très bonne performance ISO pour ce faire. Par contre, c'est ça, si vous voulez prendre plus des paysages, plus d'exploration urbaine là, ordinaire, ben là, c'est moins grave parce que dans ce moment-là, ben, on va plutôt prioriser avec le trépied qui mm-hmm. va nous permettre de contrebalancer. Là, on peut faire des expositions plus longues à ce moment-là qui va régler bon, notre problème. Ben, comme on le dit, puis je pense qu'on le répète depuis le début de ce podcast-là, ben, on priorise surtout le mode RAW. Une des bonnes raisons aussi pour ça, puis c'est peut-être pas la seule que les gens penseraient, c'est que dans ce cas-là, ça va être très utile pour ajuster les balances des blancs. Mm-hmm. Parce que si vous avez plusieurs luminosités dans votre image, ben, il va peut-être avoir de la misère à trouver qu'est-ce que c'est la balance des blancs la meilleure. Fait que moi, c'est entre autres, je sais que je l'utilise beaucoup, beaucoup, ça, de corriger la balance des blancs après. C'est quelque chose que j'apprécie bien gros. Là. Mm-hmm. Fait que, quand on est de soir, ben, une des choses qu'il faut qu'on cherche, ben, même si on veut faire des longues expositions, si on veut faire, si on a un objectif très grand, reste qu'on a besoin de lumière. Que chercher la lumière, que ce soit la lumière de rue, les néons, regardez comment que la lumière atteint vos sujets. Parfois, tu sais, même que la lumière peut devenir votre sujet, que ce soit une enseigne, encore une fois, comme je vous dis, le néon, etc.
Bonne idée, ça.
Ça peut être intéressant. C'est la lumière, dans le fond, qui va faire que vous allez avoir un sujet, parce que si c'est complètement noir, vous n'aurez rien. Justement, par rapport à ça, une autre chose qui peut être intéressante, c'est de capturer une lumière qui bouge, que ce soit les phares d'un automobile ou des choses comme ça. Mais par contre, si vous le faites, c'est évidemment, bien entendu, vous vous en doutez, un long plan de longue exposition. Mais il faut vous penser à votre photo. Parce que c'est bien beau, vos lumières qui se promènent, mais c'est peut-être intéressant de savoir, est-ce que vous voulez que les lumières y amènent dans la photo ou qu'ils fassent sortir de la photo? Parce que vous avez beau regarder, il y a toujours quand même un certain mouvement à cette lumière-là. Puis c'est ça qui peut être intéressant à utiliser, à exploiter. Fait qu'essayez de penser aussi à le mouvement et le flow de cette lumière-là. On parle souvent de planifier d'avance. Ben, pensez que si vous êtes de soir, vous pouvez pas voir aussi bien qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce que vous pourriez avoir comme sujet. Fait que c'est peut-être pas une mauvaise chose, si vous voulez, de passer plus tôt dans la journée, regarder qu'est-ce qu'il y en est, ou même étalonner sur un ou deux jours. Allez-y de soir, regardez un petit peu, sans votre appareil, regardez un peu qu'est-ce que vous désiriez prendre comme photo, les places que vous voulez aller, puis revenez le lendemain avec l'appareil, avec plus de préparation, ouais. Savoir plus où ce que vous voulez aller.
Faire un peu de repérage.
Ouais. Exact. Le repérage, c'est toujours une bonne chose. Quand vous voulez faire un shooting photo, sachez où ce que vous vous en allez. Autre chose, ça, c'est un détail, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que j'aime pas beaucoup la HDR en général. Des photos de nuit, ça doit être foncé. Mmh. C'est bien beau d'avoir, oui, de la lumière puis tout ça, mais si votre photo n'a pas de noir, c'est pas une photo de nuit.
C'est vrai,
ça prend un contraste, ça prend quelque chose.
Super bon point.
Oui, parce que les appareils ont tendance à vouloir avoir une bonne exposition, c'est-à-dire éclaircir les sujets, mais c'est pas ça qu'on veut nécessairement.
Pas nécessairement. Oui, tu peux avoir un peu d'éclair. Tu sais, mettons, je sais pas si c'est une personne, ça elle peut être un peu plus éclairé, mais si tout autour aussi est éclairé, c'est plus une photo de nuit non. Réellement, là. Puis, ben, le dernier conseil, je pense qu'il s'en va se dire, c'est faites attention. Parce que, ben, c'est la nuit, hein? Arrangez-vous d'y aller à des endroits qui sont sécuritaires ou d'y aller en groupe ou, tu sais, si vous désirez, parce que je me rappellerai toujours, moi, quand j'ai acheté mon appareil photo, le vendeur chez Future Shop, il venait juste de se racheter un autre appareil photo parce qu'il est allé dans une petite ruelle sombre, il a tourné un coin, puis le gars, il a dit, avec un couteau, tu me donnes ton appareil.
Oh.
Le gars, il s'est pas ostiné, il a donné l'appareil.
Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que souvent, un amateur de photo va souvent se retrouver avec un bel appareil aussi.
Mmh. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que si vous y allez en groupe ou si vous allez dans des places où il y a du monde, vous allez avoir moins de danger.
Bon, parfait. Merci bien. Et avant de conclure l'épisode sur mon petit test du Panasonic GX7, je voulais juste annoncer qu'on va avoir des petits tests intéressants dans les épisodes futurs. On a les objectifs autonomes de Sony, les QX10 et QX100. Et on va avoir, vous n'en croirez pas vos oreilles, le Trigger Trap.
Eh oui! Combien de temps plus tard?
Presque 2 ans plus tard, 22 mois à peu près.
Au mieux tard que jamais.
C'était à l'épisode 1 ou 2. 2, je pense qu'on a parlé du Trigger Trap. Et on a 2 exemplaires de la version 2 du Trigger Trap. Et Christian et François vont pouvoir expérimenter avec ce petit gadget qui est en fait un câble, tout simplement, qu'on branche entre l'appareil photo et son smartphone.
Ben oui, pendant ce temps, ton A7 fait la même chose sans fil.
Oui, ben ça m'a coûté 10$ l'application. Mais...
Oui, oui.
Maintenant, je pense qu'il peut le faire, mais je ne sais pas s'il fait exactement la même chose. Parce que j'ai parlé avec les gens de Trigger Trap. Et
sûrement que c'est pas exactement la même chose, mais la technologie fait que il n'y a plus besoin du fil.
C'est possible, c'est ça. Mais, sauf que le président de la compagnie s'est acheté un A7 ou un A7R et il avait l'intention de sortir un câble pour cet appareil-là. Peut-être que là, c'est retardé parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une application. Puis là, il veut voir s'il peut pas pousser ça plus loin. J'ai aucune idée, mais ça devrait pas trop tarder parce que lui-même a un appareil... qui n'est pas supporté par son propre bidule en ce moment. Donc,
ouais,
c'est une histoire à suivre. Oui, ouais, absolument. Donc, restez à l'écoute des prochains épisodes. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. On devrait avoir un appareil Olympus aussi qui s'en vient là, dans les prochains épisodes que Christian va pouvoir tester. Et là, parlant de test, moi, j'ai eu l'appareil, le Panasonic Lumix avant les fêtes, le GX7. Qui est un appareil micro 4 tiers, léger, de bonne construction. On parle d'un capteur 16 mégapixels. On parle d'un élément très important et très positif de stabilisation à même le boîtier. Donc, ça, c'est bien. On voit ça dans les appareils Pentax aussi. Et c'est génial parce que les objectifs coûtent moins cher dans ce temps-là. Pas besoin d'avoir de stabilisation à même l'objectif. On a un viseur électronique qui peut se surélever un petit peu de 2,3 mégapixels, donc quand même une bonne résolution. Un écran LCD de 3 pouces inclinable. On a des molettes dessus. Il y a pas mal de trucs paramétrables. On a un déclencheur qui peut aller jusqu'à 1/8 millième de seconde avec une synchronisation avec le flash jusqu'à 1 sur 320, 1 320e de seconde. Et vidéo 1080p à 60 images, donc 60p, 60i et 24p. Donc beaucoup de modes. Ah, mais ça me fait penser justement parce qu'on parlait de timelapse avec Trigger Trap et le Sony. L'application peut faire du 24 ou du 30 images secondes. Ça donne l'option, c'est génial.
Oui,
parenthèse comme ça qui vient de me venir à l'esprit. On a du, pour revenir au Panasonic, du Wi-Fi intégré avec NFC aussi. Donc, Wi-Fi fonctionnel, le NFC c'est très bien, ça facilite beaucoup le jumelage, mais c'est pas parfait. Malheureusement, on arrive, on s'approche, mais le Wi-Fi c'est pas parfait dans, en tout cas, à date, 90% des appareils qu'on a testés.
Oui,
mais
vraiment, là, c'est pas encore au point.
Mais justement, le Canon 70D dont on a parlé, c'est pas si mal, ça s'en vient. Et le Sony A7 à date aussi, j'aime bien. Ça fonctionne bien. Puis il y a d'autres appareils. Ça commence. Là. On dirait que les fabricants, au début, mettaient du Wi-Fi pour dire « Ah, notre appareil a du Wi-Fi ».
Oui, oui.
Mais là, ils commencent à comprendre que les gens peuvent être frustrés quand le Wi-Fi ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas facilement.
Quand ça ne se fait pas rapidement.
C'est ça. Quand c'est pas intuitif, ouais, ou que c'est pas fonctionnel carrément, c'est ce qui est pire, ça rend service à personne. Là. Donc, les fabricants commencent à le comprendre, ça, que c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai bien aimé. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais un objectif très grand angle. J'avais un 7 à 14 mm.
Hey boy, et c'est large.
C'est assez surprenant.
Oui, et c'est l'objectif le plus large, le plus grand angle que j'ai utilisé. Et je vais mettre des photos. Ce n'est pas des photos extraordinaires, mais c'est des photos des pièces à l'intérieur d'une maison. Moi, je pense que ce type d'appareil-là, c'est parfait pour un agent immobilier.
Oui.
Malheureusement, oui.
Ben oui, parce que les agents immobiliers, chaque fois, ils prennent des photos de salles de bain, de petites pièces qu'on voit jamais rien. On voit juste un coin, un angle de la pièce. Puis...
Mais ça amène une fausseté totale.
Ouais, si ben oui, c'est sûr.
La distorsion, la des
là. Ouais.
Ouais.
C'est incroyable.
Mais tu sais, c'est un compromis. T'sais.
Oui, c'est ça.
Effectivement, tu vois la pièce, tu la vois bien, mais bon, au prix de la distorsionner puis de fausser la vérité parce que les petites pièces deviennent grandes, là. C'est fou.
Ouais, il y a ça.
Mais ils deviennent vraiment grandes.
Au moins, ça donne une meilleure vue d'ensemble. Puis à la limite, ils pourraient mettre une note. Attention, tu sais, ça ne reflète pas nécessairement la réalité. Je sais pas. Ben, en tout cas, moi, il me semble que je serais du genre à expérimenter. Peut-être que je me rendrais compte que ça sert à rien, là, mais il me semble que je l'essaierais si j'étais un agent immobilier. Mmh. Enfin... Tout ça pour dire, dans les points positifs...
Je pourrais dire que tu ne serais pas un bon agent. Tu vendrais
trop
moins.
Honnête.
Tu vendrais moins.
Merci.
C'est plate à dire, mais tu vendrais moins.
Enfin. Donc, je vais y aller rapidement parce qu'on doit conclure l'épisode. Mais point positif, très bonne construction. Un boîtier solide, malgré qu'il soit petit. Donc, on parle d'un appareil hybride, micro 4 tiers. On a un autofocus rapide. On a beaucoup de... Il est très paramétrable, donc beaucoup de molettes et d'options qui sont configurables. Un écran tactile qui fonctionne bien, qui est quand même très utile. Le viseur électronique n'est pas si mal. Dans les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas de prise pour écouteurs ou micro externe, ce qui pourrait... Ben, en tout cas, on s'entend que ce type d'appareil-là ne s'adresse pas nécessairement aux vidéastes.
Pas a priori.
C'est ça. Ouais. Mais ça aurait pu être une belle addition. Par contre, ben, ça prend de l'espace dans le boîtier. Donc, quand on veut faire des appareils plus petits, plus compacts, c'est sûr qu'avoir des fiches d'audio qui rentrent à l'intérieur, ça prend de la place. Donc, c'est un compromis que plusieurs fabricants doivent faire. Il n'y a pas la possibilité de faire une conversion en RAW à l'intérieur de à l'interne, là, automatique, si on veut, ce qui est un peu dommage. Sinon, le viseur électronique à l'extérieur, c'est difficile de voir un peu dedans en plein jour, évidemment. Le soir, il n'y a aucun problème, mais en plein jour, on dirait qu'il y a... Je sais pas s'il y a une fuite de lumière ou quoi, là, mais c'est...
Ben, en fait, c'est qu'il manque carrément de luminosité.
Probablement, c'est ça. Ouais, donc, ouais. C'est à peu près tout, parce que c'est un excellent appareil. Il y a beaucoup de... un grand éventail d'objectifs disponibles pour ça. Puis, c'est un appareil recommandé, en tout cas à ceux qui veulent un petit appareil compact, bien conçu, solide, avec un paquet de possibilités de configuration. De paramétrage, c'est recommandé. Sur ce, je vous rappelle, chers auditeurs, d'aller voter pour le défi numéro 11 afin de permettre à quelqu'un de gagner ce magnifique prix de 500 pix. Si vous n'êtes jamais allé voir 500 pix, vous tapez 500px.com, allez visiter, vous allez voir des photos magnifiques sur ce site. Et
juste pour se sentir mal, là, puis de se ramener des deux pieds sur terre, qu'on n'est pas des si bons photographes que ça.
Ouais,
ça
mais
vaut la peine.
Moi, dans un autre podcast, j'écoutais quelqu'un parler des photographes professionnels et qui disait justement, quand tu regardes ces photos-là, tu compares toute ta collection de photos à la crème des photos que les gens veulent bien montrer aux autres. Là. C'est normal qu'on se sente comme ça, qu'on dise, ben, j'arriverai jamais à faire ça. Mais eux, il n'y en a pas 3000 des photos comme ça non plus. Là.
Ouais, ouais.
Donc, il faut. Moi, je vois ça comme un encouragement en disant peut-être qu'un jour, je vais être capable de faire ça. Puis ceux qui veulent vraiment, ils vont mettre le temps, les efforts, puis ils vont peut-être y parvenir un jour ou peut-être arriver très proche, puis ça va être suffisant pour eux. Puis moi, j'encourage ça. Puis moi aussi, je suis gêné de mettre mes photos sur 500 pics, mais j'ai pas beaucoup de temps pour pratiquer ou faire des
oui, c'est
partir
ça.
À l'aventure, en voyage et tout ça, là, des paysages extraordinaires. Malheureusement, c'est le temps qui me manque. Donc, mais bon, allez voir au moins, allez vous rincer l'œil. Il y a de très belles photos, vraiment magnifiques. Et puis, sinon, bien, en attendant, envoyez-nous vos commentaires, questions et suggestions à podcast@objectifnumérique.com. Vous pouvez nous écrire sur Twitter aussi, au numérique. Ou nous contacter ou visiter tout simplement, aller voir ce qu'on publie sur Facebook et Google+, en cherchant Objectif numérique. Et sur ce, messieurs, merci beaucoup François.
Merci Stéphane.
Merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci chers auditeurs et à la prochaine.